France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, la redécouverte cet été lors du festival de Radio France Occitanie-Montpellier de Ferval a redonné un coup de projecteur sur un compositeur dont on connaît davantage le nom qu'on entend la musique, Vincent d'Indy. Cet opéra, créé en 1897, peut rejoindre la cohorte des Médée, Karadec, Istar, Le Chant de la Cloche, pages oubliées de l'auteur de la symphonie dite Sévenole ou de Wallenstein. Compositeur, d'Indy l'est assurément, mais il est aussi pédagogue, investi dans la fondation de la Schola Cantorum à Paris. Vincent d'Indy laisse également d'abondants écrits jusque-lors peu accessibles ou disséminés dans diverses publications. Gilles Saint-Aromand, mon invité, a eu l'heureuse idée de les rassembler et de les présenter dans un recueil qui vient tout juste de paraître. Écrit de Vincent d'Indy, volume 1, 1877-1903, chez Actes Sud, Palazzetto Bruzzani.
Wallenstein, que vous venez d'entendre sous ma direction, est la première partie d'une trilogie d'ouverture que j'ai écrite entre 1875 et 1879, dans le but de servir de préface et de commentaire musical aux trois poèmes dramatiques de Schiller, Le camp de Wallenstein, L'épique Colomini et La mort de Wallenstein. La première exécution compte.
Bonjour Gilles Saint-Aromand.
Bonjour.
Vous êtes pianiste et musicologue et spécialiste de Vincent d'Indy, dont on vient d'entendre la voix, un enregistrement 1930, donc c'est lui qui dirigeait cet extrait du camp de Wallenstein, de sa pièce opus 12, dite Wallenstein. Alors, je l'ai dit en introduction, vous venez de rassembler les écrits de Vincent d'Indy, c'est un premier volume qui couvre la période 1877-1903. Il y aura combien de volumes en tout ?
Alors, il y en aura trois, en principe.
D'accord, qui couvriront donc l'intégralité de la production écrite du compositeur.
Voilà, alors, à l'exception de ses livres,
d'accord,
sur Beethoven, Franck et Wagner, et de son cours de composition musicale.
Bien sûr, qui est toujours accessible, son cours de composition.
Voilà, qui est numérisé notamment.
Alors, quelle est l'origine de ces écrits ? Parce que finalement, ce sont des écrits qui parlent assez peu de sa musique, mais plutôt de la musique des autres, de la vie musicale française, de la fin, du dernier tiers, on va dire, du 19e siècle, en tout cas pour ce premier volume où on croise, j'ai envie de dire, tout le monde, tous les grands compositeurs et artistes de l'époque. Où est-ce qu'ils étaient disséminés, ces écrits de Vincent d'Indy?
Alors, tous ces textes étaient disséminés dans la presse de l'époque, la presse aussi bien musicale que générale, que les quotidiens, même à l'étranger, puisque notamment il est très lié au milieu musical bruxellois. dans l'art moderne et notamment dans le guide musical, on trouve beaucoup de choses. Et puis il y a quelques textes inédits de conférences notamment, qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, notamment une très jolie conférence sur Bayreuth, qui raconte ses...
Oui, exactement. Et puis sa découverte du village, il explique effectivement à quoi ressemble Bayreuth, ce qu'on peut y manger, les horaires auxquels on peut se restaurer, etc. Comment avez-vous procédé, Gilles Saint-Armand, pour faire une sélection, parce que c'est une sélection quand même de ces écrits?
Alors non, c'est une intégralité. C'est l'intégralité de ce que j'ai pu retrouver.
Oui, vous avez pu retrouver.
De
oui,
publier.
C'est ça,
ouais. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas la correspondance. Ce sont en fait essentiellement des écrits qui sont liés à ses activités multiples, parce qu'il était un musicien particulièrement polyvalent, de chef d'orchestre, d'éditeur de partitions anciennes, d'organisateur de concerts, etc. De pédagogue, bien sûr, et de conférencier.
Alors effectivement, c'est une personnalité multiple, souvent déroutante, d'ailleurs, à la lecture de ses écrits, de ses jugements, imprévisibles, ce qui le rend d'ailleurs tout à fait sympathique, du coup. Peut-être quelques éléments de biographie. Né à Paris en 1851, mort en la même ville en 1931, issu d'une famille aristocratique.
Aristocratique, effectivement, d'origine cévenole, enfin, normande par sa mère et cévenole par son père. Et effectivement, il découvre l'Ardèche dans son enfance, et ça va être une découverte déterminante, puisqu'il va épouser sa cousine qui habite là-bas. Il va se faire construire un château, le château des Faux, tout près de la maison mère familiale. Et puis, son œuvre est largement inspirée par cet univers ardéchois. Voilà.
Et une famille donc aristocratique, où il y avait beaucoup, quelques militaires, je crois, parmi sa famille.
Alors, effectivement, il est descendant d'une longue lignée de militaires. Voilà, et lui-même a rêvé, étant enfant, d'être militaire. Et d'ailleurs, il a un peu servi la France, puisque entre 70 et 71, pendant la guerre franco-prussienne, il a pris les armes dans la garde nationale.
Alors, avec un tel pédigré, j'ai envie de dire, on peut imaginer un profil plutôt conservateur, ce qui transcrit dans certains de ses écrits. Mais également, sa pensée musicale est plutôt progressiste, qui le rend souvent déconcertant, vous le dites d'ailleurs quelque part. Je crois qu'il est pétri de contradictions.
Oui, tout à fait. En fait, il est dès son enfance, passionné de musique. Il a appris la musique avec des professeurs comme Marmontel, Audiémer ou Lavignac. Et puis, il découvre Meyerbeer, qui le fascine au départ.
Au départ, oui.
Par la
suite, des écrits un peu moins tendres.
Exactement. Ouais. Et puis Wagner assez rapidement après, et puis Beethoven bien sûr, tout le répertoire symphonique, Berlioz, et il se passionne pour la musique finalement la plus moderne, la plus dans le vent, on va dire. Et il parle même de futurisme à l'époque, il se sent futuriste. Et il est en réaction vis-à-vis de l'académisme, en quelque sorte, musical, c'est-à-dire le conservatoire, l'institut, c'est-à-dire le répertoire du grand opéra français. Et également à l'égard d'une certaine superficialité de la musique française, qui est plutôt tournée vers le divertissement, la musique de danse, les romances, la musique lyrique.
Voilà. Oui, il considère la musique et l'art en général comme quelque chose de sacré, de quasi religieux.
Ah, tout à fait, voilà. Pour lui, la musique doit élever l'âme et doit éventuellement amener à Dieu. Donc c'est effectivement sa grande idée.
Et vous avez parlé de Wagner, il fut effectivement dans son élan vers la musique, on va dire, progressiste. C'était un grand adorateur de Wagner, il a fait le voyage à Bayreuth, puis vous l'avez rappelé, il est allé.
Oui, dès 1873, alors que le théâtre n'est pas encore construit. Il fait un tour d'Allemagne, il passe voir Liszt, Wagner et Brahms. Alors sa visite chez Wagner est assez brève, puisqu'il ne le rencontre pas. Il dira plus tard l'avoir entrevu en train de composer. Bon, ouais. Je ne sais pas si on peut lui porter crédit.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Mais en tout cas, effectivement, cette fascination est dès l'âge de 22 ans, finalement. Et puis, il va aller très régulièrement à Bayreuth entre les années 70 et 80. Il va assister à la création de la tétralogie, de Parsifal, et puis il va aussi à Munich, où on donne beaucoup d'opéras de Wagner à cette époque. Thank you.
Je ne sais pas si Vincent Dadi a écouté Paul Knupfer, c'était un enregistrement de 1913, en tout cas il aurait pu. C'était un des chanteurs qui se produisait à Bayreuth, c'est un extrait de Parsifal. Paul Knupfer avec un orchestre non identifié, dirigé par Bruno Seidler-Winkler, un enregistrement effectué à Berlin en 1913. Gilles Saint-Armand, revenant à Wagner et la passion qu'avait Vincent Dadi pour ce compositeur, ce n'était pas le seul d'ailleurs français à l'époque, mais on peut être un peu étonné parce qu'on comprend assez vite qu'il défend le patrimoine français, la musique française. Il y a un côté un peu comme nationaliste hein, dans ses écrits. Quand il dénonce notamment le grand opéra et Meyerbeer, son côté éclectique, oui. Une sorte d'amalgame qui lui paraît tout à fait négatif. C'est un peu en contradiction avec l'image qu'on peut avoir de ce descendant d'une famille aristocratique qui aurait voulu être militaire, donc on peut imaginer un côté un peu strict, un peu rigide et finalement très ouvert sur la modernité.
Oui, alors, comme il le dit dans son vieil âge, il dit qu'il a eu une éducation à la fois très rigide et à la fois pleine de fantaisie, et ce qui a fait un peu les deux pans de sa personnalité. C'est-à-dire qu'il va avoir effectivement à la fois une rigidité qui en même temps est une force parce qu'elle lui permet d'avoir une action extrêmement pugnace et puis sur la durée. Et puis en même temps, il a une fantaisie et effectivement un goût pour la fantaisie, peut-être parce qu'elle lui manque parfois dans l'éducation. Et de ce fait-là, il va s'intéresser effectivement à Wagner qui est peut-être le paroxysme de l'expression à l'époque. C'est tout ce qui le fascine dans la musique, c'est l'expression, c'est tout ce qu'il cherche à faire dans sa musique et à promouvoir dans celle des autres.
Oui, il écrit que l'objet principal de la musique, c'est d'exprimer des sentiments.
Voilà, exprimer des sentiments et même des idées, comme Wagner l'a fait, et non pas simplement des sensations. Et c'est pour ça qu'il fera toujours des critiques vis-à-vis de ceux qui, à son sens, ne sont pas suffisamment dans cette ligne.
Ouais. Sans oublier la forme, parce que pour lui, c'est très important, même s'il distingue la forme de la musique dite pure, on va dire symphonique, et de la musique de théâtre, qui doit être dans des moules totalement différents.
Effectivement, un peu comme Wagner le faisait, il distingue les formes symphoniques et les formes dramatiques.
Les premières doivent être quand même plus strictes, plus rigoureuses.
Voilà, c'est ça, basé sur des lois de la symétrie, de l'équilibre, tandis que la musique dramatique doit épouser l'action et le débit vocal des chanteurs, sans entrave.
Oui, c'est ça. Et là, il dénonce justement toutes ces musiques trop prévisibles, avec ces carrures de quatre notes, comme il dit, le coup de grosse caisse qui vient appuyer les premiers temps.
Voilà,
et,
c'est ça.
Et il s'amuse un peu du bel canto qui critique comme une musique vraiment de pur divertissement.
Voilà, c'est ça, une musique prévisible, faite simplement pour charmer et divertissante, et puis pour apprécier les qualités vocales des chanteurs. Mais c'est pas du tout ce qui lui l'intéresse.
Et on peut s'étonner, Gilles Saint-Armand, que un compositeur comme Dadi, clairement catholique, ait composé si peu de musique pour l'Église.
Alors effectivement, et c'est sans doute parce que il attachait une grande importance au répertoire traditionnel de l'Église, c'est-à-dire le chant grégorien et les polyphonies palestriniennes. Il se trouve un peu à une époque effectivement où les moines de Solesmes, redécouvrent tout ce répertoire, le réédite selon des règles plus strictes. Et puis, il se trouve aussi en totalement parallèlement à un courant de redécouverte du répertoire baroque et des renaissants à l'époque, bon, par beaucoup d'autres musiciens. Et il va tout à fait s'inscrire dans cette lignée de redécouverte. Ce qui fait que lui, dans sa production religieuse, est assez peu abondante, mais très inspirée d'ailleurs par ce répertoire grégorien et palestrinien.
Et d'ailleurs, j'ai été surpris de voir que son premier texte, en 1877, est consacré à cette musique baroque, parce que est consacré au madrigaux de Rossi, et il explique également ce qu'est le chitarrone.
Oui, tout à fait. Alors là, il a été mis en relation avec un chanteur synagogal par César Franck, son maître, et il a volontiers participé effectivement à cette réédition finalement de madrigaux italiens, qu'il ne traduit pas d'ailleurs, il le donne dans le texte italien.
Et après il participe à toute cette mise en valeur du patrimoine de l'opéra français, les Campras, les Rameaux, les Lully.
Absolument, il s'inscrit tout à fait dans cette lignée, il va participer effectivement à une édition des grands opéras du 18e avec Théodore Michaelis, et il va publier effectivement une édition de André Cardinal des Touches, Les Éléments.
Thank you.
Élodie Fonard dans le rôle de Junon, Eugénie Lefebvre dans celui de Une Heure, l'ensemble Les Surprises, dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboula. C'était un extrait des Éléments de André Cardinal Destouches et Michel Richard de Lalande. Gilles Saint-Armand, c'est une œuvre que Dindy a éditée.
Effectivement, c'est une œuvre qu'il a éditée en 1883. Et pour le coup, la date est importante puisque c'est l'année de la mort de Wagner. Et justement, dans l'introduction de cette longue introduction historique et esthétique de cette œuvre, il fait un parallèle entre Destouches et les baroques français et puis Wagner.
Oui, en disant presque que, enfin, même en écrivant que Destouches annonçait Wagner, ce qui est un raccourci peut-être un peu audacieux, non?
Oui, tout à fait. C'est un peu sa manière d'effectivement de considérer la musique vocale comme devant effectivement suivre le débit naturel du chant et épouser les accents expressifs précisément de l'action. Mmh. Donc là, on a eu pas mal de vocalises. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il préférait dans la musique de Destouches, mais effectivement, il sait aussi mettre en valeur toute la musique française de cette époque baroque, depuis Lully jusqu'à Gluck.
Pour son attention portée au texte, justement.
Exactement, ouais. C'est ça.
Et à la prosodie et au sens, donc, et au caractère des personnages.
Oui, c'est ça, au sentiment, à l'expression des sentiments, des passions. Mmh. Et d'ailleurs, il préfère toujours les passions les plus violentes, en quelque sorte, comme un bon romantique qu'il est, plutôt que les sentiments plus légers, plus décoratifs.
Beau romantique qu'il a, dites-vous, ça transparaît par ses lectures, parce que vous nous apprenez qu'il, effectivement, il aimait lire les romantiques du début du 19e, et également les écrivains de son temps, aussi bien Maeterlinck que d'autres. D'un point de vue du caractère, comment était-il lundi? On a l'impression qu'il est un peu réservé, parce que dès qu'il doit prendre la parole en public, il dit qu'il aime pas trop ça, que c'est pas sa spécialité.
Oui, alors il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'il était assez timide, ce qu'on a du mal à croire, mais en même temps, il est tout à fait possible que ce soit le cas. En même temps, il a énormément enseigné et a énormément été conférencier, notamment, même si en général il avait des textes écrits qu'il lisait, il n'était pas dans l'improvisation. Il n'aimait pas trop improviser effectivement un discours, même de remerciement à un orchestre, il préférait rester en retrait. Et c'était un personnage à la fois un peu rigide dans ses opinions, il faut le reconnaître.
Oui, au moment de l'affaire Dreyfus, il était clairement anti-Dreyfus,
de manière très claire, et même dans ses écrits, ça transparaît très clairement. Et puis, en même temps, il est extrêmement généreux, extrêmement soucieux de diffuser la musique des autres, de rendre service aux autres. Notamment, il va terminer des œuvres de Chausson, de Lequeux, qui sont morts prématurément. Donc, il est un peu une des chevilles ouvrières essentielles de l'époque, parce qu'effectivement, il est toujours en action. C'est un peu ce qui le caractérise. Toujours entre un concert et une édition et des cours, et il est en permanence dans l'action et dans la vie active.
Et quelle place tient la fondation de la Scuola Cantorum dans son parcours? Est-ce que c'est justement l'aboutissement de son travail de pédagogue, de cette volonté de transmettre?
Absolument, il a ce goût de la transmission, de la pédagogie de son jeune âge, puisqu'il donne déjà des cours de composition par correspondance à un de ses cousins. Et puis par la suite, il va effectivement avoir l'occasion d'avoir des élèves particuliers. Et puis avec la fondation de la Scuola Cantorum, qui est initiée par Charles Borde, là il va vraiment se révéler complètement comme un vrai chef d'école. Et c'est là qu'il va d'ailleurs avoir la plupart de ses écrits théoriques. Avant 97, la fondation de la Scuola, enfin ses débuts de professeur, il y a assez peu de textes finalement théoriques. Et c'est à partir de cette époque, avec aussi les tensions politiques qui s'exacerbent à l'époque, qu'on va avoir les plus nombreux textes théoriques.
Un extrait de Karadec de Vincent d'Indy, interprété par l'Orchestre Symphonique d'Islande, dirigé par Roman Gamba. Gilles Saint-Aroman, pour terminer, peut-être les goûts musicaux de Vincent d'Indy. On a parlé de son admiration de Wagner, dont il croyait une sorte de progrès en musique. Il aimait pas trop la musique, on va dire, trop moderne. Bartok, Schoenberg, Mahler, oui. C'était pas trop sa tasse de thé. En revanche, on découvre, moi j'ai découvert à la lecture de votre ouvrage, un article très long, très argumenté sur Pelléas, Pelléas et Mélisande de Debussy, au moment de sa création, en 1902, où il éreinte d'ailleurs, où il donne quelques coups de griffe à la critique,
oui.
Apparemment totalement incapable de percevoir la nouveauté de cette œuvre. Et son regard est extrêmement pertinent sur la nouveauté, l'originalité de cet opéra.
Oui, tout à fait. Il est tout à fait sensible à la musique de Debussy en général, même si effectivement Debussy, ce sont des formes plutôt fuyantes que, comme il aime des formes bien strictes, mais en même temps, il s'agit d'un opéra. Et effectivement, il apprécie énormément cette liberté totale laissée aux chanteurs d'incarner leurs personnages et d'exprimer toutes les émotions qu'ils peuvent ressentir. Et c'est effectivement une œuvre pour laquelle il aura toujours la plus grande admiration. Et il estimera d'ailleurs toujours qu'il s'agit d'une œuvre qui est dans la lignée wagnérienne, dans les derniers feux de la lignée wagnérienne. Et il aura effectivement, en revanche, toujours une certaine réserve par rapport à l'influence que pourra avoir Debussy ensuite sur les générations suivantes.
Et pourquoi ?
Alors je pense que c'est surtout pour des raisons effectivement de forme. Il estime que la musique instrumentale doit être effectivement...
Cadrée,
en quelque sorte.
Ah oui, voilà. Donc dès que si on sort un peu trop du cadre, ça ne lui plaît
plus. Voilà. Ouais. Et puis peut-être une musique aussi trop axée sur la couleur harmonique. Lui-même a une grande sensibilité harmonique, mais il estime qu'il ne faut pas que l'harmonie n'est pas suffisante et pour exprimer justement des sentiments.
Et dernière question, Gilles Saint-Aroman. Vincent d'Indy, qui a été donc un grand pédagogue, un des cofondateurs de la Scuola Cantorum, est-ce que dans ses élèves ou les musiciens qui sont passés à travers ses écrits, à travers sa pensée, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont été vraiment qui sont restés?
Parmi ses élèves, alors on peut citer un des plus célèbres, c'est Albert Roussel. On peut citer également Déodat Sévrac, Carl René de Castera. On peut citer Paul Le Flem également. Éric Satie qui est passé également entre ses mains à un moment donné. Et puis il y a un compositeur, c'est plus tardif, mais pour lequel je pense qu'il avait beaucoup d'espoir, c'est Arthur Honegger. Je pense que c'est une personnalité qui correspondait assez bien à ses propres vues.
Et aujourd'hui, Dindy est quand même assez absent des programmes de concerts et de disques.
Alors il faut bien avouer que Dindy n'est pas le plus aimé, disons, des compositeurs français. Il y a néanmoins un certain renouveau discographique. Alors je signale effectivement l'apparition récemment de la sonate en mi qu'a enregistré Jean-Pierre Armingo, et puis d'un prochain disque enregistré par Eliane Reyes et Gaëtan Prouveau avec la sonate pour violon et un inédit pour violon et piano.
Très bien, merci beaucoup Gilles Saint-Aroman. Je rappelle le titre de votre livre, Les écrits de Vincent d'Indy, le premier volume qui couvre la période 1877-1903 et qui vient d'être édité chez Actes Sud Palazzetto Bruzzane. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Claire Levasseur, attachée de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je recevrai Christian Merlin et nous parlerons de Pierre Boulez. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.